بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد السلام عليكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بشفاعه الإسلام الحمد لله. Nous reprenons ce soir le programme concernant les derniers grands signes avant la fin des temps. Et quand on parle des derniers grands signes avant le Qiyama, c'est la dernière étape. Ce sont les signes qui vont se produire après le décès de Isa alayhi salam. C'est un laps de temps, c'est un laps de temps où certains croyants vont continuer à jouir de leur iman. Certains vont quitter ce dunya, vont mourir, parce que cela rejoint un hadith de base, un hadith général dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam stipule que les meilleures personnes vont quitter cette umma et qu'à la fin des temps donc restera les gens qui ont le moins de qualité. Déjà à notre époque en 2014 il y a moins de gens pieux qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans et ainsi de suite. Si on remontait la pendule, on se rapproche de l'époque des Sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, et de ce qu'on appelle en français des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu pendant les 3 siècles après le décès du prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire Sahaba, tabi'in, atba'a tabi'in. C'était là les meilleurs des gens. Et quand on s'éloigne de cette troisième génération, les qualités diminuent. Il y a moins de ilm, moins de iman, moins de khushu', de dévotion. Et ce n'est pas pour rien si une fois, ça remonte à peut-être 3 ans, on avait cité parmi les petits signes de Qiyama que parmi les premières qualités qui seront reprises du cœur des croyants, ce sera la dévotion de la salah. On avait cité, c'est un texte que je me rappelle encore très bien, dit que hatta takadu, hein, à certaines fois vous êtes dans une masjid où il y a une centaine de personnes qui prient et il n'y a pas une personne qui prie avec khushu', avec dévotion. C'est une réalité, c'est un constat que notre prophète alayhi salatu wassalam fait des siècles en avance. C'est un mu'jiza, il annonce qu'à la fin des temps, la dévotion c'est une qualité que beaucoup de personnes vont perdre. À nous-mêmes d'analyser notre salat. Chacun analyse sa prière. Que vaut-elle vraiment? Est-ce que c'est ce genre de salat qui avait permis aux sahaba, qui avait été atteint d'une flèche dans sa jambe, il avait demandé à ses compagnons de le laisser prier 2 unités de salat, 2 unités de prière, et pendant la salat, vous enlèverez la flèche de ma jambe. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et wallahi, le sahaba n'a rien ressenti. Parce qu'il y a un degré de concentration, un degré de dévotion exceptionnel. Il y a même un médecin, il y a un cardiologue, il y a un très bon livre, docteur Bourrecel, je sais pas, j'ai le livre à la maison, si quelqu'un veut, je peux l'amener dans 2 semaines, Inch'Allah. Et il a fait une étude très approfondie sur l'influence, sur l'apport du Coran au cœur, sur la concentration, l'effet du Coran sur la mémoire, sur les perceptions et l'effet de, j'aime pas le terme mais je connais pas les termes techniques, l'effet un peu de transe qu'il y a lorsqu'une personne lit le Coran. Quand une personne lit le Coran, quand je veux dire lire le Coran, c'est avec dévotion, c'est pas juste enchaîner les juz pour terminer, non, c'est lire le Coran avec dévotion. Et je relisais il y a quelques temps encore, Allahu Akbar, il y a l'écrit d'un sahaba, je sais plus si c'est un sahaba, un tabi'in, il dit que je préfère passer une nuit à lire Idha zulzilatil ardu zilzalaha avec la surah, je sais plus c'était lequel, si je ne me trompe pas, wal adiyati dhabha, avec dévotion et concentration, en méditant sur chaque verset, en me rendant compte du message qu'Allah Azza wa Jal fait passer à la umma à travers ces versets, plutôt que de lire autre quantité de versets cumulés, si le but est juste de cumuler, de faire plus de versets. Maintenant, quand on parle de lire le Coran, c'est vraiment avec khushu', avec dévotion, avec tadabbur. Le terme le plus important, c'est tadabbur, méditer sur le sens du Coran. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, subhanallah, il y avait donc ce médecin qui avait écrit, donc il y a un ouvrage très intéressant sur l'effet que ressent le qari, celui qui lit le Coran avec dévotion, un tel effet qu'il finit même par s'oublier. Il y a une telle élévation spirituelle que subhanallah, il y a des choses ajib qui se passent. Expérience personnelle, pas pour dire que j'ai fait ou j'ai pas fait, il n'y a pas d'ostentation, mais c'est une expérience personnelle. J'ai encore en tête, mais vraiment c'est un souvenir qui est frais. ça remonte pourtant à plusieurs années, et ça arrive une fois de temps comme ça. J'étais dans la Masjid Nabawi, Al-Madin, Al-Munawwara, pour un Umrah, adossé contre un poteau, en train de lire l'histoire de Nuh alayhi salam. Je pense que c'était dans Wama Min Dabba. Mais ce n'était pas une lecture comme, par exemple, qu'on révise pour la salat au Tarawih, où le but c'est de ne pas faire de faute, pour ne pas gagner gros tête, entre autres. Ou alors une lecture pour faire en sorte qu'on révise, muraja'a, réviser ce qu'on connaît, pour ne pas oublier. Non, c'était vraiment une lecture avec l'esprit reposé, où il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout. Mais c'était une lecture, c'est comme si que, excusez-moi l'expression, c'est comme si qu'on arrivait à rentrer dans chaque verset, avec un tel degré de tadabbur, de méditation, ben à ce moment-là, ben je ne peux pas vous dire ce qu'on ressent, parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. Et à ce moment-là, on souhaiterait que le temps ne s'arrête pas. On souhaiterait qu'il n'y a plus personne qui vous embête, pour pouvoir continuer à lire, à lire, à lire, et à ressentir les frissons. C'était vraiment comme une connexion directe avec Kalamullah, avec la parole d'Allah. Mais ça, c'est strictement rien par rapport au degré de concentration, de dévotion des sahaba, ridwanullahi alayhi majma'in, lorsqu'ils lisaient le Coran. Donc ce docteur, et j'ai lu quelques passages de son livre, c'est très intéressant. Il a même fait des IRM avec quelqu'un qui est en train de lire. Je ne sais pas comment il a fait, mais il y a des images. Bon, peut-être qu'on n'est pas scientifique, on ne comprend pas les images aussi, mais il y a pas mal d'explications là-dessus, que le cœur, le cerveau est imprégné par la lecture du Coran. Il y a quelque chose d'énorme qui se passe. Et parmi les qualités des croyants, alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, le cœur qui tremble, et ceux qui lorsqu'ils ont la pensée d'Allah, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Il y a deux verbes en rapport avec le cœur. Et dans le deuxième verset, ce sont les personnes qui, enfin, en ce sens, dont les cœurs s'apaisent lorsqu'ils lisent, lorsqu'ils font le rappel d'Allah, lorsqu'ils font le dhikr. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Ça, ce sont des sensations qu'on ne peut pas forcément expliquer avec des termes, je sais pas, psychologiques ou autre chose, mais c'est vraiment une tranquillité du cœur. C'est la sakina. Cette sakina que les sahaba, radiallahu anhu majma'in, avaient ressenti également lors de la bataille de Badr, la veille de la bataille de Badr. Une tranquillité qui touche les cœurs, qui apaise les cœurs. Vous sentez relâché complètement. Ça, c'est une sakina qu'Allah met dans les cœurs. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, je ne sais pas comment on est arrivé là, d'ailleurs. On revient. On essaie de reprendre le wagon sur les grands signes de Qiyama. On avait dit que parmi les premières choses hein, qui travaillent, je me rappelle, le cœur des croyants, c'est la dévotion, la concentration. D'où l'importance, pour clore le sujet, d'analyser notre salat. Chaque fois qu'on fait une prière, avant de démarrer la salat, on fait l'intention ferme que je me maîtrise autant que je peux. Après, si on est embarqué par les waswasas de Shaitan, il y a la possibilité de dire Ablam de Shaitan, de revenir, de se raccrocher. Mais avant de démarrer, on essaie d'être attentif. C'est comme quand vous allez prendre le volant, vous êtes un peu fatigué, vous êtes somnolent, vous avez une famille derrière, des enfants, vous dites que non, je ne vais pas me laisser aller, je vais être concentré. Je fais en sorte qu'il n'y a pas une seconde où je perds la concentration. On y arrive ou on n'y arrive pas? On y arrive. Mais qu'est-ce qui fait que quand on démarre la salat, dès quand l'imam dit Allahu Akbar, ben nous c'est parti. On a décollé déjà, on est parti dans telle pensée la première raka'a, telle pensée les congés, les vacances, les projets, le travail, la famille, les courses. Allahu musta'an. Je vous parle d'une réalité haqiqa. Et une des questions qui revient le plus souvent, et ce qui me fait plaisir, c'est à partir du moment où on se fait du souci pour la qualité de notre salat, c'est déjà un bon signe. C'est pas qu'on considère que c'est quelque chose de adi, de normal. Parce que si on arrive à un stade où on enchaîne les salats, ce qui est notre cas, alhamdoulilah, on fait nos salats régulièrement, mais on ne se pose jamais la question que valait vraiment cette salat. Et qu'on passe du salat de Vahr al-Asr, al-Maghrib al-Isha, sans jamais pouvoir dire qu'est-ce que l'imam a lu. Qu'est-ce que l'imam a lu, deuxième rakat al-Isha? Sans retard. Les omarjis sont très souvent en retard, sans généraliser. On n'est pas capable de se souvenir des versets, on n'a pas été capable de s'accrocher aux versets que l'imam a lu, et qu'on ne considère pas ça comme un naqs, comme un manquement dans la salat, c'est que notre cas est grave. C'est qu'on est rentré dans un système de routine. La salat est acceptée par Allah, Inch'Allah. Allah est Ghafoor Rahim, Allah accepte. Mais cette salat ne nous apportera pas beaucoup sur le plan sur le plan spirituel. Maintenant, quand quelqu'un se pose la question, il se dit, oui, mais j'arrive pas à me concentrer dans la salat, que faut-il faire? Et c'est des questions qui ont été posées par un public adulte et même par notre groupe de jeunes. Tu te souviens? Ça fait plaisir. Quand on voit des jeunes de 17, 18 ans qui posent cette question, comment se concentrer dans la salat? Je me dis qu'alhamdulillah, il y a khair, il y a du khair de la umma. Et ça, c'est important. Et parmi les savants disent, les meilleures façons d'avoir, de développer la concentration de la salat, on est hors sujet, mais on reste dans le din. Hein. Parmi les meilleures façons de trouver la khushu', la concentration de la salat, c'est connaître ton Rabb, connaître qui est Allah, connaître la grandeur d'Allah en étudiant le tawhid, en étudiant al-asma wa sifat, les noms et les attributs d'Allah. Quand on sait qu'on est devant Rahman, Rahim, Karim, Ghafour, Sattar al-Uyub, assurément, ce sijda, cette prosternation, ces louanges qu'on fait en génuflexion, ruku' ou en prosternation, Wallahi l'Azim, ça prend une autre ampleur. Mais si je demande à un frère, pas lui, hein, mais ce qu'il a à ma droite, parce qu'on ne va pas taquiner Rachid à chaque fois, demande à un frère, qui est Allah? Parle-moi d'Allah. Il dit, Allah, c'est Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Bas, oui, c'est notre Dieu, notre Créateur. Déjà, c'est bien. Rabb, Khaliq, il y a deux sifat. Mais si on n'est pas capable de donner une description de guillemets de notre Seigneur, comme le Coran le fait, qui cite les qualités de notre Rabb, dites-moi devant qui vous vous prosternez. Enfin, on se pose la question, hein, c'est pas un jugement. On doit se poser la question, est-ce qu'on sait réellement devant qui on fait sijda? On sait que c'est un ordre. Bilash chak. Sans le moindre doute, mais pour ressentir la grandeur d'Allah, on doit connaître notre Seigneur. Et ça passe obligatoirement par l'étude des asma ou sifat. Connaître le sifat d'Allah Azza wa Jal. Deuxième solution, deuxième méthode pour obtenir la dévotion et la concentration d'Allah Salah, ben c'est exactement ça, être capable de méditer sur le sens des versets. On va peut-être pas maîtriser l'intégralité du Coran, mais ne serait-ce si on peut déjà commencer par le Fatiha. Si on peut déjà commencer par les sept versets de Surat al-Fatiha, Masha'Allah, ce serait vraiment quelque chose d'énorme. Ce qui veut dire que chaque salat qu'on va faire, les cinq prières par jour, chaque unité de prière, on aura la possibilité de relancer la machine de iman. Parce qu'on comprend, ça veut dire quoi, ihdinas sirat al-mustaqim, on comprend le lien qui unit, le lien, la relation entre le makhluk et son khaliq à travers iyaka, na'bud. Et ouais, Iyaka, ça c'est la relation maintenant du cœur, la relation de confiance, de conviction, de retour vers lui dans chaque situation de la vie. Ouais, Iyaka, Yad, mashallah. Ouais, Iyaka, Nasta'in. On comprend comment al-iltija'u ilallah, al-iftiqar, c'est le terme que je cherchais, al-iftiqaru ilallah. Al-iftiqar, ça vient de faqr. C'est quoi un faqir? Hein? Synonyme de faqir en arabe? Bitiaru. Non, c'est pas un mot arabe. Quelqu'un qui fait pitié, un pauvre. Al-iftiqar, c'est montrer qu'on est pauvre devant Allah. En demandant Allah, ihdina, ihdina, oh Allah. Après avoir cité les louanges d'Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allah, il est Ar-Rahman. Allah, il est Ar-Rahim. Allah, c'est le Malik Yawmiddin. C'est le maître de l'attribut. C'est-à-dire, en ce jour, on n'aura que Allah pour nous aider. On n'aura personne d'autre pour nous venir en aide si ce n'est Allah. Et le Malik Yawmiddin, ça rejoint beaucoup de ces versets qui parlent de la résurrection, yawma la yanfa'u malun wala banun, yawma yafirru al-mar'u min akhihi ila ghayri dhalik, ou les versets qui expliquent clairement que le jour de Qiyama, personne ne viendra en aide à son prochain, et que le jour de Qiyama, il y aura la justice tam, le adl, la justice d'Allah Azza wa Jal. Le jour de la résurrection, il n'y aura pas de vol, il n'y aura pas d'oppression. Ila ghayri dhalik. Tous ces versets, on retrouve la puissance et la conclusion dans Malik Yawmiddin. Pourquoi? Parce que c'est Allah le maître du jour de la rétribution. En ce jour, personne ne vient en aide à son prochain. En ce jour, personne ne peut plus porter atteinte, ne peut plus porter préjudice à son prochain. En ce jour, personne ne cache ses propres défauts. En ce jour, les injustices sont réparées. Malik Yawmiddin, c'est un verset qui nous réconforte et qui nous fait angoisser, qui nous réconforte quand on est opprimé, qui nous réconforte quand on a eu du mal à accomplir des bonnes actions, mais on les a accomplies quand même, avec Raja, l'espoir de rétribution, mais qui nous effraie vivement qu'il y ait des moteurs électriques, parce qu'à chaque programme, ce camion passe et ils prennent beaucoup de temps. Et ça nous effraie en même temps, parce que quand je pense à Malik Yawmiddin, quand ce jour, mes biens En ce jour, mon titre, le nom de ma famille, et ainsi de suite, rien ne me sera profitable si ce n'est la clémence d'Allah. Je réalise le sens de Malik Yawm al-Din. Allah, c'est le maître du jour de la rétribution. Donc, si nous voulons être parmi les faizines le jour de Qiyamah, nous devons faire en sorte que le Malik Yawm al-Din soit satisfait. Wallahi al-Azim, mes chers frères, il suffit de travailler le tafsir d'Al-Fatiha. Travailler l'Al-Fatiha. Et vous allez voir comment votre salat va changer. Comment notre salat deviendra un autre ibad. Uniquement en travaillant les sab'ul mathani, les 7 versets de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On fait tous les niyats, Inch'Allah. Inch'Allah. Vous vous rappelez, on avait vu que parmi les grands signes après le décès de Isa alayhi salam, il y a la disparition progressive de l'islam, une disparition voulue par Allah Azza wa Jal. Et c'est un dîn qui est protégé par Allah. Ses écrits sont protégés par Allah. Ses symboles sont protégés par Allah. Mais à la fin des temps, lorsqu'Allah décide que la fin du monde doit avoir lieu, Allah reprend tous ceux qui ont la ilaha illallah de leur cœur. Même ceux qui l'ont eu par héritage et qui ne comprennent pas forcément le sens. Le hadith qu'on avait expliqué une fois. Des gens qui disent la ilaha illallah, mais ils ne font peut-être pas d'action. Même eux, ils vont mourir. Et ça, c'est la rahmat d'Allah. En commentaire, Mouhadithin disent, voyez la rahmat d'Allah, même ceux qui ont répété la ilaha illallah qu'ils ont entendu de leurs parents, de leurs grands-parents, même ces gens-là, ils font partie des personnes, des heureux élus qui vont quitter ce dunya avec cette brise qui viendra du Yémen et qui viendra du Sham et qui reprendra l'âme des croyants. Parce que quand le Qiyama aura lieu, il ne peut plus exister sur cette terre, il ne doit plus y avoir sur cette terre une personne qui dit Allah ou une personne qui croit en Allah. Et quand il n'y a plus personne, la Kaaba est détruite, le Coran est repris par Allah et dans certaines sources a confirmé la pierre noire également. Si on dit que la Kaaba est détruite, certainement la pierre noire également est reprise par Allah. C'est-à-dire les symboles de l'islam sont repris par Allah, ne sont plus protégés. La Kaaba n'est plus protégée par Allah, mais la parole d'Allah, elle, remontera aux cieux. Et ça, c'est ce qu'on avait vu il y a 2 semaines à peu près. Donc ça, c'est quand il n'y aura plus personne de ce dunya pour dire Allah. Ce qu'on avait vu la dernière fois, si je ne me trompe pas, le point 2. Oui, enfin, j'étais persuadé qu'on a vu, donc je n'avais pas l'intention de l'aborder. Mais du coup, bon, Inch'Allah, on a de quoi, il y a les hadiths qu'il faut. Parmi les, on va dire, le dernier grand signe que les musulmans vont vivre avant cette brise qui va reprendre l'âme des croyants, c'est une fumée qui va apparaître. Ad-Dukhan. Dans le surat Ad-Dukhan, donc qui porte ce nom, Allah Rabbul Izzah dit Fartaqib, yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, yaghsha an-nas, hadha 'adhabun alim. En commentaire, les mufassirin rahimahumullah disent que fadhahir al-aya, le verset prouve que cette fumée sera quelque chose de réel qui va apparaître minas sama, qui va apparaître du ciel, ya'ummun nas, et qui concernera l'intégralité des gens. Et on avait expliqué un peu en introduction. Le prophète alayhi salat wa salam, on prend d'autres dalil maintenant qui prouvent que ce signe aura lieu, hadith Hudhayfa, dans lequel le prophète alayhi salat wa salam dit lan taquma, le qiyama n'aura pas lieu tant que vous ne verrez pas 10 signes. Et parmi ces signes, le prophète alayhi salat wa salam avait cité ad-dukhan, ad-dajjal, ad-dabba, la fumée, dajjal et la bête. Hadith de Imam Muslim. Également hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu rapporté par Imam Muslim également et par dans le Musnad Imam Ahmed, badiru bil a'mal sitta. Empressez-vous d'accomplir les bonnes actions avant ces signes. Et parmi les signes, il y a le lever du soleil, il y a Ad-Dukhan et il y a Ad-Dajjal. Donc, c'est un signe qui est prouvé bil-kitab wa sunna, par les versets du Coran et prouvé également par les hadiths authentiques. Et maintenant, on va un peu plus loin dans les détails. Hadith de Uqba bin Amir radiallahu anhu, de lequel le prophète alayhi salatu wassalam explique. يَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ قَبْلَ السَّاعَةِ سَحَابَةٌ سَوْدَى مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ, que avant la fin des temps, vous verrez un nuage noir qui va apparaître. فَلَا تَزَالُ تَرْتَفِعُ فِي السَّمَاءِ, c'est un nuage qui va prendre de l'ampleur, qui va monter, monter, monter dans les cieux. وَتَنْتَشِرُ, et qui va se répandre. C'est quelque chose qui sera visible de tout le monde. حَتَّى تَمْلَأُ السَّمَاءِ, jusqu'à ce que le ciel soit obscurci complètement par ce nuage. Et certaines personnes, en voyant ça, vont penser que c'est le Qiyama, que c'est la fin du monde. Quel effet aura cette fumée sur les gens? Il y aura deux catégories de personnes. Les mu'minoun, les croyants, ne seront pas perturbés comme les kuffars. Les kuffars seront vraiment perturbés par ce signe, alors que les croyants, ils vont... C'est comme si Zoukam, je ne sais pas comment traduire Zoukam, c'est comme un rhume, c'est comme quelqu'un qui tousse, qui a une bronchite. Donc, ça va aller porter atteinte, mais très légèrement. Mais pour les kuffars, cette fumée va entrer par leur nez, par leurs oreilles, par leur bouche. C'est quelque chose qui va leur causer beaucoup de tort. Et c'est un signe qui va perdurer pendant 40 jours. Hadith de Ibn Jarir wa Tabarani, Ya'khudhu al-mu'min, voilà, comme un rhume, wa ya'khudhu al-kafir, fa yantafikh, qui va même faire gonfler donc leur ventre, hatta yakhruju min kulli masma'in minhu. Et ça va donc sortir par leurs oreilles, par leur nez. C'est quelque chose qui va porter préjudice à ceux qui n'ont pas la ilaha illallah, mais qui va juste ennuyer un petit peu, perturber légèrement ceux qui ont le iman de leur cœur. Et ce sera là le dernier taklif, on pourrait dire, la dernière difficulté que les croyants vont vivre avant cette brise douce qui va reprendre l'âme de chaque mu'min. Wayam kuthu arba'ina yawma. Cette fumée va persister pendant 40 jours. Thumma, et après ça va venir donc la brise qui va reprendre l'âme des croyants. On terminera avec hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu. Inna min ashrati as-sa'ati dukhanan yamla'u ma bayna al-mashriq wa al-maghrib. Bon, on va dire ça, c'est d'autres pistes, d'autres hadiths, mais qui rapportent à peu près le même sens. Là, de ce texte, yayam kuthu fil ardi arba'ina yawma, et qui persistera pendant 40 jours. Donc là, le hadith qui prouve que cette fumée va rester pendant 40 jours. Et le kafir fayakunu bimanzilati sukran. Le kafir sera tellement perturbé, sera comme quelqu'un qui est ivre, comme si quelqu'un qui a bu, qui est en état d'ébriété. Et ça va durer donc 40 jours. Et après ces 40 jours, et là on en vient au sujet du jour, après ces 40 jours viendra la brise qui, différemment, à la différence de cette fumée, ce nuage qui va, c'est comme un nuage toxique, d'accord, mais on ne va pas parler de pollution bien sûr, d'accord, on n'a pas la possibilité de donner des interprétations avec des termes modernes concernant cela. C'est un signe qu'Allah va envoyer. Quelle est la hikmah? Quelle est la sagesse? Je n'ai pas trouvé pour l'instant. À travers trois livres, quatre livres que j'ai l'habitude de consulter pour les grands signes de Qiyama, je n'ai pas trouvé la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Peut-être qu'avec d'autres lectures par la suite, s'il y a des ouvrages un peu plus techniques, bidnillah, on trouvera. Mais même si on n'arrive pas à trouver la hikmah, c'est ce qu'Allah Rabbul Izzah a décidé. C'est la décision d'Allah Azza wa Jal. Je pense que pour comprendre la hikmah, il faudrait peut-être qu'on revienne un peu sur Surat al-Dukhan et lire un petit peu plus les tafsirs. Et là, ça nous ramène vers 12 ou 14 ou 15 même ouvrages pour essayer de voir s'il y a eu un mufassir qui a trouvé une des hikmas de ce signe avant la fin des temps. Par contre, et là on arrive au sujet du jour, et ça c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est là la rahma d'Allah. Que quand ce monde sera détruit, si vous analysez le verset « Idha shamsu kuwirat » Idha sama'un fatarat. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la plupart des Idha sama'un, pas wassama'i wa tariq. Oui, wassama'i wa tariq également. Tous ces surahs du Juz Amma qui donnent des détails crus et précis sur la destruction de ce dunya. En parlant des mers, en parlant du ciel, en parlant de la terre. C'est-à-dire les trois éléments les plus visibles, terre, le ciel, les mers, comment est-ce qu'ils vont être dénaturés et ils vont obéir à une autre fonction qu'Allah leur a donnée maintenant, et ces éléments-là vont entrer en fusion. Dans certaines sources, on parle même du soleil qui va descendre, qui va arriver au niveau des mers. Donc ce sont des choses terribles. C'est pire que tous les scénarios catastrophiques qu'on peut imaginer dans un film ou autre chose. Ça c'est ce que tous les peuples ont redouté, la fin du monde, et c'est quelque chose qui aura lieu. Mais la rahmat d'Allah, c'est que les croyants, ceux qui ont la ilaha illallah de leur cœur, ne vont pas vivre ces moments difficiles. Ils sont en train de fermer, on va essayer de terminer en 10 minutes. De toute façon, ce signe, vous voyez, ce genre de signe n'a pas été extrêmement développé par les ulama, par les savants. Ils se sont contentés de d'amener les hadiths, les preuves, les hadiths authentiques qui prouvent que cela va se passer et à partir des hadiths d'extraire certaines choses qui donnent donc des descriptions un peu plus fixes, un peu plus fidèles à ce signe. Donc nous si on se limite à ça, hadith de Nawas ibn Sam'an radiallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam parle de idh ba'athallahu rihan tayyiba. Déjà ça c'est un adjectif qu'on retient. Allah, ensuite, ensuite, Allah Azza wa Jal va envoyer une brise tayyiba, une brise douce. C'est-à-dire que quand l'âme des croyants est reprise, elle est reprise de façon douce, avec douceur. C'est pas qu'Allah envoie, na'oud billah, un châtiment pour que les croyants meurent, qu'il reste que les kuffars. Non, les croyants vont mourir dans le izza, honorés, et de la façon la plus douce possible. فَتَأْخُدُهُمْ تَحْتَ أَبَاطِهِمْ. Ce vent va passer sous le bras, sous les aisselles. Donc, imagine une description plus dure, ça aurait été comme une rafale de vent qui va emporter les gens. Non, c'est une brise, déjà les qualifier comme étant douce, qui va passer sous les aisselles. C'est pas quelque chose qui va faire tomber les gens ou autre chose, c'est quelque chose de vraiment une manifestation de la rahma d'Allah pour ces derniers croyants, malgré le fait qu'ils n'ont pas atteint le top en termes de iman et qu'ils sont même très loin des qualités requises, mais ils ont la croyance en Allah et pour cela Allah aime ces gens. Ça c'est encore une manifestation de l'amour d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs. فَتَقْبِضُوا رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُسْلِمٍ. Et cette brise va reprendre l'âme de chaque croyant. وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ. Et ensuite, ne restera plus que les mauvaises personnes, les pires des gens. Les pires des gens de cette Ummah, ce seront ceux sur qui le Qiyama aura lieu. Et puis il y a une description, mais ça on le garde pour un point B. On continue à expliquer, à trouver. Enfin, on a vu les hadiths qui parlent de cette brise, et on a vu dans chaque hadith quelque chose de différent. Un terme qui nous donne un peu plus de description. Autre hadith, celui-là a été rapporté par Imam Ahmed. Ce qu'on va citer, c'est de Abdullah ibn Amr, rapporté par Imam Muslim. ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة. Cette fois-ci, dans ce hadith, cette brise est qualifiée comme étant une brise glacée. Donc, c'est pas quelque chose de chaud, de brûlant. Et quand on parle de barid, ça nous rappelle, ça vous rappelle quoi? Allons. Je sais qu'il est 21h. قلنا يا نار كوني Bardan wa salaman ala Ibrahim. Ça nous rappelle ce feu qui était doux, le mot bard. Mais c'est le mot bard en commentaire. Je ne dis pas que c'est le même terme, mais c'est une indication. Wallahu ta'ala a'lam. Quand le feu est devenu. En fait, bard, en arabe, barid, c'est froid. Mais là, ce n'est pas froid. C'est un froid agréable. Parce qu'il y a des fois qu'il fait froid, c'est insupportable, d'accord? Mais c'est un froid qui est doux, qui est juste comme il le faut pour être agréable. Donc là, de ce hadith, on parle de Rihan Barida, un vent, une brise qui est douce, une brise qui est froide et agréable. Min qibali Sham, qui viendra de Asham. Et quand on parle de Sham, c'est où? La Syrie, la Palestine, toute cette zone. Ce sont les endroits qui seront les plus honorés à la fin des temps. Et on avait vu le combat magnifique contre l'armée de Dajjal. La Nusra d'Allah, magnifique, lorsque Isa descend à Dimashq, en Syrie, à Damas. Lorsque Isa alayhi salam se présente à la Umma, aux résistants qui sont en train de lutter contre l'Antéchrist, Baytul Maqdis, en Palestine. C'est vraiment la terre élue et qui sera le centre, l'endroit où les croyants seront concentrés à la fin des temps, où aura lieu également la mise à mort de l'Antéchrist, la mise à mort de Ad-Dajjal. Donc, ce vent, et en général, tout ce qui est bien vient de cet endroit. Et tout ce qui est mauvais vient. Oui, dites-le. Qui a dit? Cher de l'Irak. Tout ce qui est mauvais, en général, ça vient de cette autre région, ça vient de l'Irak. Donc, min qibali Sham. Et quelles sont les conséquences de cette brise? فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ. Il ne restera plus une personne qui a dans son cœur une présence de foi sans que son ruh, son âme ne soit retirée. Et le hadith, il est ajib. Tous les hadiths sont ajib d'ailleurs. حَتَّى, là, on va l'enfoncer, même si quelqu'un, l'un d'entre vous, se réfugie au creux d'une montagne, la dakhalat alayhi, cette brise parviendra dans les failles de cette montagne pour reprendre son ruh. Parce qu'il n'y a pas une personne qui a la ilaha illallah de son cœur qui doit rester. Parce que ce qui va se passer après, ce sera un châtiment douloureux. Aussi douloureux, voire plus douloureux que ce que les peuples d'avant ont subi. Vous connaissez l'histoire du châtiment du peuple du prophète Aad, du peuple de Aad, du prophète Houd, du peuple du prophète Salih, du peuple du prophète Lout, alayhi salatu wassalam. Il a réalisé d'alik. Notre umma n'a jamais connu de destruction totale. C'était l'un des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était une raison pour laquelle il ne voulait pas faire des miracles trop apparents, de crainte que si les gens ne croient pas, la destruction, al-halak, ça va sur eux. Mais à la fin des temps, tous ceux qui n'ont pas iman seront détruits, exactement comme les gens qui étaient sous la tutelle des prophètes d'avant et qui n'ont pas cru en lui, ils ont été détruits du premier jusqu'au dernier. Autre hadith de lequel on va aller un petit plus vite, décrit ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ. Maintenant on parle d'une brise qui aura le parfum du musc. مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ, et qui aura, comment on pourrait traduire ça, la texture de ce vent, il sera douce comme de la soie. Donc ce sera quelque chose d'extrêmement agréable. On a tayyiba, on a barida, on a rih al-misk, on a masul harir comme de la soie. Bref, on a 4 ou 5 adjectifs qui nous font comprendre que ce sera là un signe de la rahmat d'Allah Azza wa Jal pour reprendre l'âme des croyants en douceur. Et puis le reste des hadiths se rejoignent. Chaque personne qui a la foi va mourir. Et là, ça nous amène vers les personnes qui restent. Mais juste avant, il y avait un autre hadith. Il y a des fois où on pense qu'on trouve tout dans un ouvrage, mais après, bismillah, après quelques recherches, on trouve d'autres choses ailleurs. Il y a un hadith qui est pas mal du tout, mais j'ai pas trouvé assez de chaîne de narration assez solide, mais on le cite quand même. Non, celui-là il est bon, il y a d'autres hadiths. Ça c'est sahih, rawah ibn Hibban fi sahih, je pense qu'il est ok. La taqoum as-sa'a, bon, le hadith est à peu près pareil. Lui, il qualifie ce vent rihamra, rougeâtre. Qu'est-ce qu'il veut dire par rougeâtre? Il n'y a pas de commentaire, wallahu a'lam. Chaque personne qui a la foi va mourir. Voilà. Il dit, min qillati man yamutu fiha. Il dit, il y aura peu de gens qui vont mourir. Il y aura peu de personnes qui vont mourir avec cette brise. Ce qui veut dire qu'il y aura peu de mu'mines encore à cette époque. Jusqu'à ce qu'on puisse compter les gens qui sont morts. Les gens vont dire, ma ta shaykhun min bani fulan, wa ma ta ajouzun min bani fulan, que telle personne est décédée de telle tribu, telle personne est décédée de telle tribu. En commentaire, le hadith explique qu'il y aura si peu de croyants à la fin des temps qu'on pourra énumérer les personnes qui ont trouvé la mort avec cette brise. Et ça rejoint un autre hadith qui est dans l'ouvrage que nous utilisons, notre ouvrage de référence, dans lequel, hadith de Na'im ibn Hammad, dans Kitab al-Fitan, lorsqu'il parle de ce vent, il dit que voilà, les gens vont s'en souvenir, ils vont voir, dit Fulan, telle personne est mort, son âme a été retirée alors qu'il était dans la masjid. Telle personne, son ruh a été retiré alors qu'il était en train de faire son marché, en train de faire ses courses. C'est-à-dire, on sera capable, comme j'ai dit, d'énumérer les gens qui meurent parce que à cette époque-là, il restera quasiment plus de Ahlul Iman, de Ahlul Tawhid. Maintenant, on a un autre hadith. On avait dit que ce vent viendra du Sham. On a notre hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, qui est authentique également, de lequel il y a le même contenu. On parle de Riham min al-Yémen, d'un vent qui viendra du Yémen. Et en faisant la, qu'on appelle en ulum al-hadith, jam' bayna al-hadithayn, en combinant les deux textes, les savants disent qu'il y aura donc un vent du Sham et un vent du Yémen qui seront identiques et qui auront le même but, le même objectif, qui est de reprendre l'âme de chaque personne qui a la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dans leur cœur. Et maintenant, les pires des personnes qui restent, ce sont des gens qui vont retourner exactement comme à l'époque de Al-Jahiliyyah, l'époque de l'ignorance. Hadith de Aisha radiallahu anha. Et d'autres hadiths qui vont dans le même sens. Je l'ai. Ce hadith de Aïcha dit que la yadhhabu al-layl wa an-nahar hatta tu'bad al-lat wal-uzza. Que à la fin des temps, qu'avant le Qiyama, les gens vont retourner vers l'adoration de Allat wal-Uzza. C'était des idoles qui étaient adorées fil jahiliya, de l'époque pré-islamique, de l'époque d'ignorance avant le prophète alayhi salatu wassalam. Ce qui veut dire que partout, même dans le Jaziratul Arab, même dans la péninsule arabe, les gens vont retourner dans l'ignorance, dans le shirk, dans le polythéisme, et le qiyama aura lieu sur ces personnes, ala shirarin nas, comme beaucoup de hadiths les qualifient, les pires des gens de cette umma. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucun ahlut tawhid de ce dunya. C'est fini. Et donc, on peut dire que la mission du prophète alayhi salatu wassalam se parachève également, parce qu'il reste les pires des gens, et là le qiyama a lieu, et puis c'est, on passe dans un autre monde. Et quand il n'y a plus personne qui a la ilaha illallah de leur cœur, certains savants disent que c'est à ce moment-là que la Kaaba sera détruite. Ça, je pense qu'il est un peu juste. On a atteint 40 minutes. On en est à 35, mais bon, il est un peu tard. On aurait aimé développer encore deux points, la destruction de la Kaaba, mais ça, il faut prendre du temps pour l'expliquer, parce qu'il y a pas mal de termes techniques, il faut, voilà, il faut donner des explications. Et on avait prévu d'aborder également les trois grands séismes qui vont concerner des continents entiers à la fin des temps. Ça, on verra la prochaine fois. Mais c'est quand il n'y a plus personne qui donnera de l'importance à la Kaaba, tout comme il n'y avait quasiment plus personne qui donnait de l'importance au Coran, c'est là qu'Allah Azza wa Jal ne protégera plus sa maison, ne protégera plus la Kaaba, et là il y aura une personne qui, accompagnée d'une armée, viendra de la terre de Habasha, du côté de l'Éthiopie, du côté du Soudan à peu près. Et les hadiths, ce qui fait partie des mu'ajizas, des miracles prophétiques, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam donne la description de cette personne de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, le prophète alayhi salatu wassalam décrit le qaïd, le chef de cette délégation, de cette armée. Ils vont venir avec une véritable armée pour détruire la Kaaba, et il n'y aura personne pour les défendre. Parce que plus personne ne donnera de l'importance à la maison d'Allah. Ils seront devenus, on pourrait par analogie, d'accord, dire qu'ils seront peut-être même pires que les gens à l'époque de l'ignorance, parce qu'à l'époque de l'ignorance, les Arabes étaient attachés à la Kaaba. Et Abdul Muttalib, je vais demander à quelqu'un comment s'appelait le grand-père du prophète sallam, mais ça aurait été facile. Abdul Muttalib a essayé, par son éloquence, à pousser Abraha vers le raisonnement pour qu'il comprenne que c'est Allah qui le défend, mais que nous tous nous sommes attachés à la Kaaba. Les Arabes étaient attachés à la Kaaba. Mais à la fin des temps, les gens n'auront plus aucune importance. Ils seront retournés dans une époque de Jahiliya à un état presque bestial. Et le Qiyama aura lieu sur ces gens. Donc, ce qu'il nous reste à voir, je pense qu'on peut... On peut terminer dans deux semaines, et puis on va annoncer, Inch'Allah, quel programme on va faire, parce qu'après les signes de Qiyama sont terminés. Après c'est le Qiyama, d'accord? Donc après on va peut-être passer à un autre sujet, Inch'Allah. Ce qui nous reste à voir donc, c'est la destruction de la Kaaba. Il reste à voir les trois grands séismes à la fin des temps. Ce feu également qui va apparaître, ça c'est vraiment juste avant le Qiyama Sa'a. Et si je ne me trompe pas, ben oui, l'auteur a zappé. Ou alors c'est dans notre chapitre. Adaba, non, mais oui, il ne l'a pas mis, c'est Ajib, donc il faudra rechercher ailleurs. La bête qui va sortir et qui va donc distinguer les gens. Et ensuite, on verra, je vois que ça c'est assez long à développer, comment aura lieu An-Nafkhu fis-Sour. Comment est-ce que l'ange comment? Comment il s'appelle l'ange qui souffle de la trompe? Mikaïl, Israfil ou Redouane? Bravo, vous êtes trop fort là. L'ange Israfil, comment est-ce qu'il va souffler dans As-Sour, dans la corne? Donc ce sont les thématiques qui nous restent à voir. Je pense qu'on pourra le faire en deux séances. Et puis je pense qu'on va changer complètement de sujet. On va passer à un autre point qui me tient beaucoup à cœur. On verra ça, Inch'Allah, par la suite. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accepte, nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles. On va dire, qu'est-ce qu'on a à mettre en pratique? On parle des signes de la fin des temps. Il n'y a rien à mettre en pratique, d'accord? Il ne faut pas dire que vous voyez un nuage, par exemple demain, si un cyclone dit, ah, c'est le nuage, on va tous mourir. Non, c'est pas ça, parce que les grands signes ne sont pas apparus encore. Il n'y a rien de direct là à mettre en pratique, si ce n'est de comprendre, de réaliser l'importance du iman, de réaliser l'amour qu'Allah Rabbul Izzah a pour les croyants, et pour réaliser qu'à la fin des temps, ce peuple va être détruit, ceux qui n'auront plus la ilaha illallah dans leur cœur. Et si on peut retenir ce qu'on a dit en introduction, wallahi, on n'insistera jamais assez là-dessus, l'importance de travailler notre lecture du Coran, l'importance d'étudier le Coran de façon journalière. Autant nous voyons nos huffaz réviser, on aimerait voir des gens avec le Coran, avec traduction, avec tafsir. On peut télécharger maintenant sur nos portables des, je pense qu'il doit y avoir des tafsirs en français qui sont accessibles. Wallahi al-azim, on a grandement besoin de comprendre le Coran et on a besoin de commencer par Al-Fatiha. Si on a compris Al-Fatiha, wallah, c'est une porte ouverte. En révisant quelques hadiths dernièrement sur l'importance du Coran, j'ai retrouvé un texte magnifique qui parle des livres qu'Allah a révélés. Il dit que le Torah, Zabur, Injil et le Suhuf et les livrets sont tous résumés dans un livre. C'est le Coran, bien sûr. Et le Coran est résumé dans les derniers vers, dans les derniers chapitres à la fin. Et ces derniers chapitres, on peut trouver le condensé, le résumé dans Al-Fatiha. Et en déduction, commentaire, le muhaddith dit que celui qui a compris Al-Fatiha, qui a compris le sens, c'est comme si qu'il avait compris, il a pu, entre guillemets, brasser un petit peu l'intégralité des messages qui ont été révélés par Allah dans les livres. Qu'Allah nous accepte, nous choisit pour être des portes du Coran avec tadabbur, avec la possibilité de comprendre le sens pour mettre en pratique. Tawfiqi, illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alamin, jazakum khair.